Demain, notre émission, prostitution, la pénalisation peut-elle avoir des effets pervers? Ce sera la question que nous poserons, que je m'abstiendrai de vous poser, Laurent Gomard, pour votre rendez-vous ce soir. Bonsoir.
Vous avez une solution? Vous avez une réponse à votre propre question, comme d'habitude?
Je crois que je vous ai déjà dit que je ne posais que des questions à laquelle, auxquelles je n'ai pas de réponse.
Très bien, c'est ça le journalisme. Voilà. Merci Hervé Gardette. Dans quelques minutes, eh bien, ce sera le rendez-vous, une émission folk et dandisme ce soir, avec Rosemary Stanley, Arthur Bigillette, deux membres du groupe Moriarty, et les journalistes Ariel Wiesman et Laurent Nunetta. Une émission en partenariat avec le magazine À nous Paris, qui cette semaine parle aussi musique, avec le documentaire musical Pulp, un film sur le groupe de pop-rock anglais de Jarvis Cocker. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Et parce que vous écoutez France Culture, il est 19h et une minute, ça y est, en direct. Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir. L'actualité reste dominée ce soir par le deuxième tour des élections départementales remportées par la droite. 66 départements pour l'alliance UMP-UDI, 34 pour la gauche qui en perd 25. Le Front National, lui, n'obtient aucun département alors qu'il était bien placé au soir du premier tour, notamment dans l'Aisne et le Vaucluse. Le FN ne l'emporte finalement que dans 31 cantons sur 2054, mais il progresse en nombre de voix. À droite, Nicolas Sarkozy apparaît comme le vainqueur du scrutin, d'autant plus que son rival Alain Juppé a vu son département de la Gironde rester à gauche. Du côté de la majorité socialiste, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un quatrième échec électoral pour François Hollande. Martine Aubry et les frondeurs réclament une inflexion politique à gauche, option pour le moment rejetée par le président Emmanuel Valls. Nous y reviendrons à 22h avec notre invité, le député socialiste de Paris, Pascal Cherki, l'un des porte-parole des frondeurs. La grève continue à Radio France. Le mouvement a été reconduit aujourd'hui à l'unanimité de l'Assemblée Générale. Plusieurs centaines de salariés se sont prononcés à main levée pour un 13e jour de grève. Demain, les syndicats accusent la direction d'organiser le pourrissement du conflit qui perturbe les antennes, dont celle de France Culture. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, rappelons-le, envisage un plan de départ volontaire qui concernerait entre 200 et 300 salariés. Mathieu Gallet, lui-même sous la pression du gouvernement qui lui réclame un projet d'entreprise dans les 15 jours. L'actualité à l'étranger, aux États-Unis, une fusillade a éclaté ce matin devant le siège de la NSA, l'agence de sécurité américaine. Une voiture a tenté de forcer l'entrée des locaux situés à Fort Meade dans le Maryland. Il y aurait un mort et un blessé selon la chaîne de télé Fox News. Geste d'un forcené ou attaque terroriste, la NSA se refuse pour l'instant à tout commentaire. L'agence devrait diffuser un communiqué dans la soirée. Au Nigeria, les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle donne un score très serré entre le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari. Ce dernier l'emporterait dans 5 des 8 États déjà dépouillés. Le Nigeria compte au total 36 États. Il faut donc attendre avant de connaître le nom du vainqueur. Retour en France avec la météo. Demain, de la pluie et du vent un peu partout en raison d'une perturbation très active qui va traverser le pays. Il pleuvra en plaine et il neigera en montagne au-dessus de 1800 mètres dans les Alpes. Seul le pourtour méditerranéen devrait conserver un temps sec et ensoleillé, mais le Mistral et la Tramontane pourront souffler à plus de 100 km/h. Les températures maximales demain après-midi, 12 à Lille, 13 à Paris et Rennes, 17 à Toulouse et jusqu'à 26 degrés en Provence sous le soleil. Sous le soleil exactement de France Culture, Laurent Gomard, le rendez-vous.
Vous êtes très Jennifer en fait.
Oui, tout à
ça,
fait.
C'est ça, c'est ça. Ou Gainsbourg. Voilà.
Oui, écoutez, je vous laisse le choix.
Gainsbourg. Jennifer. Allez, merci Stanislas Vazak. On vous retrouve à 22h, c'est ça, pour le journal de la rédaction. Alors, à tout à l'heure.
Allez-y.
L'art de créer la beauté formelle. Le procédé est obtenu par révélation.
Contracté. Relâche.
Time to go now.
Relâché.
On a very last flight.
Contracté. Relâché.
Relâché, contracté, c'est le retour du rendez-vous ce soir en direct sur France Culture. Il sera question d'Harlem Renaissance, de sapeurs congolais, de théorbe, de folk, de rap et même de piano en feu. Avec Rosemary Stanley et Arthur Bigillette du groupe Moriarty, deux albums folk et musique ancienne pour Love, I Obey, et puis folk et rock avec Epitaph, Benoît Lagane.
Entre blues rock et folk baroque, retour sur le parcours sous influence anglo-saxonne de deux des membres de Moriarty, des musiciens qui travaillent leur projet en partant autant des instruments que des répertoires.
soir. À 19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, la comédienne Nada Strancar. 19h35, plateau SAP avec Ariel Wiesman et Laurent Lunetta qui signe Black Dandy. Un documentaire sur les raisons politiques et esthétiques de l'élégance masculine travaillée par les Noirs. Manu Farine.
Des champs de coton à Kanye West en passant par les sapeurs congolais, 52 minutes pour une histoire du dandysme noir ou quand le style se fait expression politique.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle reprise pour le journal de la culture de Zoé Sfès qui s'ouvre d'abord, bien sûr, sur le son du jour. Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir à tous, bonsoir Laurent.
C'est votre son du jour et il a l'air a priori prime sautier.
Il est tout à fait prime sautier puisque c'est une version instrumentale de La Reine de la Nuit interprétée ici par le hautbois virtuose d'Olivier Doise. Petit ensemble donc de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ça s'est passé dans l'Agora aujourd'hui devant les salariés en grève de l'entreprise. Et oui, puisque c'était le 12e jour de grève à Radio France aujourd'hui, pas pour nous donc. Les musiciens notamment font partie des 4 catégories de personnel qui font l'objet d'un préavis déposé devant les présidences de Radio France, à l'instar des employés des services de propreté, de sécurité, des chargés et assistants de réalisation. La direction de l'établissement, ils estiment que leurs emplois sont menacés par le projet de la direction de Radio France, présidée donc par Mathieu Gallet.
Depuis le début de la grève, les négociations qui avaient été rompues entre syndicats et direction ont repris, mais les syndicats dénoncent un blocage depuis vendredi.
Oui, alors petit rappel des faits, on va essayer de faire court. La direction de Mathieu Gallet doit présenter en urgence un projet sous 10 jours à la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, pour ensuite négocier un contrat d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire le budget de Radio France pour 5 ans à partir de 2019. Le budget qui, jusqu'ici, est alloué par le ministère de la Culture, donc, qui est donc la tutelle de Radio France est trop faible pour couvrir les besoins de l'entreprise qui se retrouvera donc nécessairement en déficit. La direction n'est pas en mesure aujourd'hui de nous répondre, de répondre à nos questions. Mais en tout cas pour les syndicats, les propositions de Mathieu Gallet portent essentiellement sur l'emploi, donc toucheraient l'emploi pour combler ce déficit. Pour le moment, aucune réelle alternative n'a été évoquée, comme l'explique Jean-Mathieu Zand, il est réalisateur, délégué syndical de la CGT à Radio France et il négocie depuis 12 jours avec la direction.
Ces économies, on ne pourra guère aller plus loin. S'il faut trouver des pistes, il faut que la direction soit sérieuse pour les trouver et qu'elle ne fasse pas ces économies uniquement sur le dos des salariés et des emplois. Alors, il y a eu quelques. On a cru qu'il y avait vendredi soir à 20h quelques petits aménagements, des petites avancées. En fait, ça s'est durci pendant le week-end. Un texte a été renvoyé ou par e-mail alors que les syndicats demandaient à négocier ce week-end. Il n'y a rien eu, c'est complètement bloqué aujourd'hui.
Parmi les personnels les plus menacés, les musiciens des 4 formations de Radio France et notamment ceux des 2 orchestres.
Oui, il y a 2 orchestres à Radio France, l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Mathieu Gallet a évoqué simultanément, de manière un peu désordonnée dans la presse, puis dans les négociations, la possibilité soit de fusionner les orchestres, soit d'externaliser l'Orchestre National de France ou encore de soumettre le sort des 2 institutions à, je cite, une personnalité imminente de la musique. Pour le moment, on ne sait pas laquelle. Pour Martin Blondeau, violoniste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et membre de la RP, la représentation permanente et artistique de l'orchestre, il manque en fait un vrai, vrai projet pour ces 2 formations. Écoutez-le.
Même si les négociations n'ont pas l'air d'avancer depuis maintenant des jours, les musiciens se posent comme force de proposition pour aider la direction qui a l'air d'être un peu dans l'impasse pour proposer un projet ambitieux, stratégique pour la musique et... Nous sommes tout à fait prêts à nous investir, nous avons tout à fait intégré les difficultés budgétaires de l'entreprise et les efforts qui vont être demandés à tous. Donc nous ne sommes pas du tout arc-boutés sur nos privilèges, mais pour pouvoir se mettre autour de la table, après des mois où la confiance malheureusement s'est étiolée pour finir par se rompre complètement, voilà, nous demandons un geste de la part de la direction et le recul devant ces menaces les plus fortes qui sont l'externalisation, ou la fusion des formations.
Au-delà des personnels menacés, plusieurs corps de métier de la Maison de la Radio soutiennent le mouvement, même sans être grévistes.
Oui, c'est le cas notamment des producteurs, vous les connaissez, vous entendez leur voix. Ils ont écrit la semaine dernière une lettre ouverte qui est parue dans les journaux. Et aussi aujourd'hui, donc ce lundi, des journalistes, car je le rappelle, le syndicat des journalistes ne fait pas partie des syndicats qui appellent à cette grève, mais la Société des journalistes de Radio France, donc qui est l'association qui regroupe tout le monde, y compris les non-grévistes, publie ce jeudi une lettre ouverte. Qu'on peut lire notamment sur le site du Monde, pour alerter sur une situation qui, selon eux, dépasse les préavis seulement qui ont été déposés. Ludovic,
le vrai problème de Radio France, qui n'est pas simplement une histoire du bureau du président Mathieu Gallet, qui est une histoire beaucoup plus grave, l'histoire d'un chantier qui dure depuis 10 ans, aussi l'abandon d'une idée du service public de la radio. C'est pour ça qu'on s'adresse au pouvoir politique et qu'on leur dit de faire cesser ces querelles, les chamailleries, en apportant des solutions concrètes. Nous, dans notre tribune, on dit que l'État n'a pas honoré une partie de l'argent qu'il doit à Radio France. On a estimé ça à 87,5 millions d'euros. Il y a une taxe qui s'appelle la taxe Telco, qui taxe les opérateurs de télécommunications, de téléphonie mobile et les télés privées. Le fruit de cette taxe doit revenir à la radio publique. Sur les 300 millions d'euros de cette taxe, 160 millions d'euros, plus de la moitié, abondent le déficit de l'État. Et pas l'audiovisuel public, pas la radio. Et nous, il nous manque, allez, 50 millions d'euros, certains disent, pour arrêter le massacre.
Voilà, donc c'était Ludovic Piétedu, qui est donc président de cette société des journalistes de Radio France, et donc d'ailleurs dans cette perspective de s'adresser directement aux politiques, donc aux instances qui décident, les syndicats ont décidé de faire appel directement à leur tutelle, le ministère de la Culture, pour réclamer l'intervention d'un médiateur dans les négociations. Ils décident aussi, ils envisagent d'aller porter leur cause devant le Parlement demain.
Par ailleurs, une émission commune des producteurs de toutes les chaînes de Radio France pour expliquer leur vision de ce qu'est une radio de service public est enregistrée en ce moment même. Elle est animée par Alex Dutil de France Musique, Mathieu Vidard de France Inter, Marie Richeux de France Culture, et elle sera bientôt disponible sur Dailymotion. Peut-être quelques réactions de la part de nos invités sur cette situation qu'ils doivent connaître. Je crois que Rosemary Stanley, vous aviez joué plusieurs fois, non, avec l'orchestre
Radio France.
National, ouais.
Bah oui, enfin, j'ai eu la chance.
On va vous soulever le micro, c'est vrai, parce qu'il est un peu bas. Voilà.
J'ai eu la chance de vivre ça une fois, et c'était absolument extraordinaire. Moi, je leur souhaite d'obtenir en tout cas ce qu'ils demandent, ou au minimum, ouais.
D'autres réactions?
Je ne sais pas tellement pour
Ariel Wiesmann.
Je ne sais pas tellement pour les autres corps de métier, mais pour les musiciens, je trouve que dans le silence et de manière totalement secrète depuis bien une dizaine d'années, beaucoup de musiciens tombent dans une précarité, voire une misère, voire des situations beaucoup plus graves. Moi, je connais beaucoup de cas de musiciens qui se sont suicidés parce que leur métier disparaît. Alors, la cause n'est pas simplement à relier à des événements comme celui qu'on vient d'évoquer, mais aussi le tarissement des revenus dus à Internet, à l'absence de régulation totale sur les droits d'auteur, sur les droits d'interprète, etc. Et je trouve que c'est une situation vraiment très, très alarmante pour les artistes qui font des choses de culture et de flux en général.
Votre réaction?
Un rafale, 300 millions d'euros.
Voilà. Arthur Bégilt. Parfait. Donc, Laurent Lunetta?
Tout simplement, le quotidien sans Radio France, c'est juste une punition.
Ah, ça, c'est clair. C'est quoi? Il faut chercher RTL, Europe 1, c'est où, ça?
On passe aux brèves, Zoé.
Petite brève aujourd'hui avec la disparition de Miroslav Ondrychek. J'ai failli vous le laisser, Laurent, ça vous aurait fait plaisir. Directeur de la photo de Milos Forman, il s'est éteint à l'âge de 80 ans cette nuit. C'était l'un des membres de la nouvelle vague tchèque. Il s'est formé avec le documentaire. Il a travaillé donc avec Milos Forman sur Taking Off, Hair, Ragtime, Valmont et évidemment Amadeus. Hein, on est raccord avec la Reine de la Nuit, pour lequel il avait remporté l'Oscar de la meilleure photo.
Qu'est-ce qui est arrivé au directeur du théâtre d'État de Sibérie pour une mise en scène trop osée?
Eh ben, vous n'avez pas du tout envie de donner le nom de ce brave homme. Donc, ce brave homme s'appelle Borit Medstrich. Il a accueilli, donc c'est le directeur du théâtre de Sibérie, une représentation de Tannhauser de Wagner qui a beaucoup déplu à l'église orthodoxe, puisqu'il envoyait Jésus-Christ, qui était devenu le personnage d'un téléfilm érotique tourné par le chevalier Tannhauser. Je ne vous explique pas ça. L'église orthodoxe avait donc dénoncé une atteinte aux chrétiens. Et aujourd'hui, le ministère de la Culture a décidé donc de renvoyer Vladimir Medinsky, car pour l'État russe, les œuvres réalisées avec l'argent de l'État ne doivent pas promouvoir une division dans la société.
C'est dit, c'est fait. La dernière ?
La dernière, c'est presque un petit peu une dernière. C'est une histoire un peu drôle et pas si drôle d'annonce de casting qui avait un peu créé un énorme buzz vendredi dernier, donc juste au début du week-end, puisqu'on avait trouvé donc une annonce de casting qui était balancée sur tous les sites spécialisés où on expliquait qu'on recherchait un personnage, un acteur pour le personnage de Mamadou, je cite, homme de 25-30 ans, noir, agressif, comique, qui saurait danser, faire des blagues de type Afrique centrale, Afrique du Sud, surtout évidemment être noir, avoir habité en cité est un plus. Donc voilà, ça c'était une annonce qui avait été relevée par
donc
plusieurs
Michel
personnes.
Leb, c'était pas possible.
Michel Leb, c'était pas possible, vous, clairement, c'était pas possible, et pourtant, on aurait aimé vous voir dans un tel exercice. Alors voilà, tout ça avait été relevé par la twittosphère, et finalement, en fait, on pouvait s'en douter, c'était en réalité un fake cette annonce. Cette annonce, elle a été mise en ligne par Andrew Tisba, acteur réalisateur de 23 ans, et Marie Emel, qui est actrice et productrice. Tous les deux sont noirs et tous les deux ont lancé cette annonce de casting pour faire réagir justement sur en révolte contre la récurrence des clichés ethniques dégradants et l'obligation des acteurs de ces ethnies de jouer systématiquement ça. Alors ils expliquent que pour faire cette annonce, ils ont fait un espèce de mix de plusieurs annonces que eux-mêmes regardaient, qu'ils ont un tout petit peu tiré le trait avoir habité en cité est un plus, mais que en fait pas tellement, et que d'ailleurs ils ont reçu près de 400 candidatures pour cette annonce qui étaient des candidatures réelles.
Quelle réaction est-ce que l'on vient d'entendre?
Ça se voyait dans la formulation, enfin, il n'y a pas de blague d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud, c'est ridicule, c'est même pas la même langue, c'est pas du tout la même façon de penser. Donc oui, enfin moi ça me paraissait très très bizarre cette histoire. En même temps, je vois pas tellement pourquoi appeler au viol pour dénoncer le viol. Je suis pas très fan de ce genre de provocation.
19h20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Amour et Mort avec vous, Rosemary Stanley, chanteuse, interprète, membre du groupe Moriarty, à vos côtés Arthur Bégilette, producteur et clavier du groupe. Love IOB, c'est sous le label Alpha Productions, c'est la rencontre entre vous, Rosemary Stanley, et un ensemble de musique ancienne. C'est difficile de reprendre après quelques jours de disparition. Et puis dans 15 jours, il y aura la sortie du 4e album de Moriarty, Epitaph, sous votre propre label, Air Ritmo. Deux projets qui ont pour point commun le folk américain, folk et rock d'un côté, puis folk et baroque de l'autre. D'abord, une question qu'on a dû vous poser des milliers de fois, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, une question sur le nom de votre groupe. Il vient de Dean Moriarty, c'est un personnage du livre de Jack Kerouac, On the Road. Or, il y a plein d'autres sens qu'on a pu découvrir par la suite. C'est aussi le nom d'une ville au Nouveau-Mexique, sur la route 66. C'est celui d'une actrice de série B, le nom d'un aviateur qui est passé sous la tour Eiffel en 1984, le nom d'un clan irlandais, bref, tout le monde s'appelle Moriarty. Qu'est-ce que ce nom disait du projet en 95?
Alors en 95, j'y étais pas.
Non, mais je...
Mais il se trouve que c'était le livre que lisait. C'était un peu le livre de chevet du groupe à l'époque, donc qui était beaucoup plus jeune que maintenant. Et non, mais parce que je pense que ce livre sur la route correspond aussi à un âge où on peut aimer ce type de littérature. Aujourd'hui, je le revendique pas forcément.
Ah oui.
Non.
C'est
moins.
Bien de le dire.
Ouais. Non, mais moins, voilà, vraiment beaucoup moins. Je l'ai relu il y a 2 ans, justement, pour. Il y a d'autres choses de Kerouac que je trouve beaucoup plus intéressantes que sur la route. Et voilà, mais bon. Il se trouve qu'à l'époque, c'était le livre que lisait le groupe et que quand il y a des livres qu'on aime bien, on se les repasse, voilà, on les lit ensemble un peu. Et qu'il y avait un des membres du groupe qui était saxophoniste à l'époque, qui ressemblait beaucoup au personnage de Dean Moriarty, voilà, et donc qui attrapait des trains, qui faisait du stop, bref. Voilà, et donc c'est pour ça qu'ils ont nommé le groupe Moriarty. Mais il y avait aussi parce que Kerouac avait fait une filiation littéraire, il avait voulu faire une filiation littéraire entre son personnage de Dean Moriarty, et puis qui aurait pu être le neveu du professeur Moriarty, un neveu éloigné du professeur Moriarty irlandais, ennemi de Sherlock Holmes.
Vous êtes d'accord avec cette réévaluation à la baisse, Révisman, sur la route ?
Alors, je trouve très courageux, lucide, adulte et compagnie, mature, de dénoncer des livres qu'on a adorés tout jeune, du genre ces espèces de façons de s'enflammer sur, je ne sais pas, le théâtre et son double d'Artaud, la peste de Camus. Et je suis assez pour dénoncer les ouvrages qui nous plaisent quand on a 15 ans.
Benoît Lagan. Alors, on devait ce soir vous entendre en direct et la session devait même être filmée depuis notre studio 108. Mais suite au mouvement de grève, donc, nous avons été rapatriés dans le studio 158 de France Culture. Alors, on va écouter un extrait de votre nouvel album, Long Live the Devil. Une réflexion, Ariel Wiesman, au vu de ce titre, ça vous a fait quelque chose?
Oui, non, ça m'a fait penser à un groupe que j'aime beaucoup, qu'on avait reçu avec mon camarade Edouard Baird un jour dans La Grosse Boule sur Nova, qui s'appelait Tiger Lilies, qui sont vraiment des espèces de vagabonds comme ça, dont on perd la trace, qu'on retrouve, qui passe. Et avec ce même type de voix et une façon de traiter des sujets très durs, avec ce côté cabaret un peu sombre. Mais là, c'est plus joyeux, plus... plus lumineux.
C'est taf, c'est normal.
Bah oui, beaucoup plus joyeux.
Bah oui, vous dites bye bye, vous êtes libéré.
Benoît, alors ce titre a été créé dans le cadre de l'adaptation musicale du Maître et Marguerite de Bulgakov, une pièce radiophonique réalisée depuis le Festival d'Avignon pour France Culture, c'était en juillet 2014, un projet que si la radio au rabais a lieu ne verra pas le jour. Un souvenir de cette expérience?
L'orchestre, évidemment, l'orchestre, d'entendre l'orchestre faire les arrangements, jouer les arrangements à la salle Colonne dans le 13e arrondissement à Paris. Donc d'entendre le chef d'orchestre qui a le casque sur les oreilles et qui dirige l'orchestre. L'orchestre n'entend pas la musique originale qu'on a faite. Et donc l'orchestre joue sur partoche sans. Je crois qu'ils n'ont jamais entendu en fait ce qu'ils ont fait. Mais c'était extraordinaire.
À partir de quel matériau et de quelle sonorité vous avez construit ce nouvel album ? Je parle volontairement de sonorité et de matériaux, je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Rosemary Stanley, quelles étaient les pistes de départ en fait ?
Les pistes de départ, en fait c'est parti de pistes très différentes puisqu'on a des morceaux qui datent de même de notre premier album qu'on n'avait jamais réussi à enregistrer. Il y a des morceaux qu'on a enregistrés sur la route aussi et il y a des morceaux qui sont issus de cette collaboration avec France Culture. Il y a quelques temps. Donc c'est des époques différentes et puis il y a aussi des instrumentations très différentes puisqu'il y a des choses qu'on a, des instruments qu'on a pioché un peu partout comme on fait quand on va en Inde par exemple, on achète des instruments, quand on va on a un musicien qui est parti à Cuba qui a ramené des percussions, Arthur avait ramené des percussions coréennes, enfin voilà, on essaye de mélanger un peu tout ça. Et puis aussi on a fait pas mal de rencontres ces dernières années avec d'autres groupes, pas mal de collaborations, et je pense que ce disque, enfin pour moi il y a une influence réunionnaise assez importante. même si ça s'entend pas forcément sur ce morceau-là, ouais. Mais pour moi il y a vraiment il y a notre rencontre avec la musique réunionnaise, la Réunion,
très belle,
Christine
très
Salem belle. Qui est une chanteuse extraordinaire avec qui on a écrit des chansons et collaboré, tourné, voilà, le Maloya.
Magnifique. Donc, c'est voilà. Vrai qu'il y a une très belle percussion cubaine qui est une mâchoire de cheval.
Mâchoire
de cheval qu'on racle avec un bâton comme ça, c'est assez incroyable. C'est une des percussions les plus bizarres du monde.
Ah non, je ne connais pas celle-là.
Arthur Bégillette, vous ne connaissez pas cette percussion, vous qui traînez absolument partout, même dans les magasins à gages aux États-Unis pour retrouver des instruments incroyables.
J'en parlerai à mon dentiste.
Peut-être.
De cheval. Ouais.
Justement, à propos de ça, en 2009, pour résumer le son de Moriarty, vous citiez le son d'une guitare Martin de 1956 ou encore une National Steel de 1928 que vous aviez trouvé dans un dépôt de vente. Dans quel esprit ces instruments vous ont-ils permis de composer, en fait, un son spécial.
C'est très difficile à expliquer, mais je pense que les instruments ont une âme et dégagent vraiment quelque chose. C'est au-delà de dire quelque chose de poétique, mais c'est vrai. On a vraiment constaté que les micros enregistrent d'une façon différente certains instruments. Et en fait, on ne l'explique pas. C'est simplement un jour, pour une chanson, cet instrument réveille la chanson. Tout d'un coup, la chanson sonne, elle marche, quoi. Alors qu'on a, on a galéré pendant des semaines et des mois à enregistrer cette chanson. Et là, ce jour-là, et c'est le cas d'ailleurs de la dernière chanson du disque qui s'appelle Long as the Night, qu'on a essayé d'enregistrer pendant 13 ans.
Et c'est pendant la 13 ans, oui, ça fait 13 la dernière ans. Chanson du disque.
Oui, ça fait 13 ans qu'on essaie de l'enregistrer et jamais on a réussi jusqu'à trouver un endroit, un moment, des instruments. Et là, on a réussi.
Alors, qu'est-ce qui a réveillé
Je ne sais pas. Simplement, la magie s'est faite, mais ça ne s'explique pas.
Qu'est-ce que vous avez de particulier, les percussions coréennes que vous avez travaillées pour ce disque ?
Ben, c'est un instrument chamanique. Donc je pense que ça doit être à peu près comme cette mâchoire de cheval.
Ouais.
Et évidemment, on les utilise à contre-emploi. On fait pas du tout de la musique coréenne, chamanique. Ni chamanique. Mais c'est une résonance aussi. Elle a une résonance. Et d'ailleurs, les ingé-sons avaient beaucoup de mal à l'enregistrer aussi.
Benoît.
Alors à propos de son, on vous a demandé comment à tous nos invités depuis le début de la saison de nous soumettre une idée de son. On a cherché, enfin Thomas Beau a cherché et voici ce qu'il a fait. Alors, c'était pas totalement ça, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer.
Qu'est-ce que vous vouliez, qu'on a essayé de faire ? Vous vouliez quoi ?
On a eu un texto aujourd'hui pour nous demander, bon, il faut un son pour ce soir. L'émission se fait, donc ils ont besoin d'un son. Et moi, j'ai pensé au râle du piano. Alors, le râle du piano, c'est la dernière corde quand on brûle un piano. La dernière corde qui casse fait un espèce de râle. J'ai jamais entendu.
Quand on brûle un piano ?
Quand on brûle un piano, oui. Malheureusement, j'ai rencontré en fait des accordeurs de piano quand on a joué à la Philharmonie 2 en janvier. Et on a été amené à parler de ça. Et donc, ils m'ont expliqué la profonde mélancolie et en même temps la beauté immense de ce dernier râle du piano qui est en train de brûler, parce que parfois il faut le brûler un piano, il n'y a plus rien à en faire, on ne peut pas le réparer, il n'y a rien à faire, et ils ont trop de pianos dans leur stock, donc voilà, parfois ils brûlent, et donc la dernière corde qui éclate fait cette espèce de son d'outre-tombe. Et en même temps, un grand fidèle qui fait beaucoup de films pour nous en Super 8, a filmé un piano qui brûlait il y a à peine 2 semaines.
Pour, Clément Deuve.
Voilà, Clément Deuve. Mmh.
À propos d'ailleurs de piano qui brûle, notre réalisateur a essayé de trouver un son et je crois qu'il a regardé sur Internet, comme d'habitude. Et au Japon, manifestement, c'est ça, hein, je regarde mon réalisateur, au Japon, il y a des pianistes qui jouent sur des pianos en feu. Je vous vois complètement dubitatif par rapport à cette information. On continue sans transition.
Alors la percussion mâchoire de cheval, le piano en feu,
Puis il faut une progression.
Moi, il y a quelque chose je suis fasciné dans l'histoire du rock par les voix de falsetto, parce que mon chanteur préféré, que je mets au-dessus de tout, s'appelle Russell Mael, c'est le chanteur de Sparks, et que ce soit Queen, que ce soit ce qu'on a entendu tout à l'heure, ou Uriah Heep. Enfin, il y a plein de grands, grands falsettos de l'histoire du rock. Et pour moi, ça a quelque chose. C'était vraiment des gens qui créent une voix qui est ailleurs. Quand on chante aigu comme vous, on n'est jamais dans un vrai naturel. On crée quelque chose, on crée une voix qui nous dépasse, qui devient quelque chose d'autre. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez par rapport à votre chanson ? Votre façon de chanter, plutôt.
Moi, je sais pas du tout d'analyser les choses comme ça. J'essaie juste souvent d'être connectée au texte et peut-être à autre chose, enfin à moi-même, avec la musique. Mais c'est très difficile de parler de sa voix, en fait.
Ouais.
Mais c'est marrant parce que, comme vous, moi, je suis très attirée par les voix d'hommes qui vont vers des voix de femmes, voix de femmes qui vont vers les voix d'hommes.
C'est-à-dire que David Bowie,
mais aussi dans le classique, c'est-à-dire que je suis vraiment Kathleen Ferrier, par exemple, qui a une voix extraordinaire, ou Alfred Deller, qui sont des gens qui sont... On ne sait pas, ils sont entre deux, ils sont entre deux mondes, en fait. Et ils nous font passer, justement, dans un autre monde. Voilà. Mais moi, c'est un peu mes références, en tout cas, aussi.
Benoît.
Alors, on parlait de sons et d'instruments, et vous avez sorti Rosemary Stanley en février, un album solo, Love I Auburn, enfin solo avec le Elstrophers Band. Qui serait né ce projet aussi d'une rencontre avec un instrument de musique, le théorbe, un grand luth. Qu'est-ce que le théorbe vous a inspiré pour faire naître ce projet discographique particulier ?
Bah alors, le théorbe en soi, moi je l'ai découvert justement avec, avec Bruno Elstrophers, puisque on s'est rencontrés sur un projet de Laurence Equilbé, en fait, il y a quelques années.
Laurence Equilbé, chef d'orchestre.
Chef d'orchestre.
Une formation baroque.
Accentus, et puis de, voilà, de plein d'autres formations. Mais en fait, c'était un instrument que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais la musique baroque, mais je ne connaissais pas le théorbe. Et surtout en live, lui, il jouait de la guitare baroque et du théorbe. Et j'étais assez fascinée par l'objet, par ce que c'était étrange, c'est à la fois un luth. Et puis en même temps, c'est immense comme instrument. Ça sonne comme une guitare, mais ça a beaucoup plus de cordes qu'une guitare. Ça nous parle d'une autre époque. Et puis lui m'a. C'est lui qui m'a présenté en fait ses amis musiciens baroques, et c'est avec eux aussi qu'on a construit ce répertoire là. Et cet univers-là de rencontre justement entre folk et musique baroque.
Parce qu'au départ, vous rêviez d'un solo de théorbe avec Moriarty.
En fait, ça s'est produit.
Mais ça n'est pas enregistré.
Non, ce n'est pas enregistré. C'est-à-dire que...
Il faudra 15 ans, je préviens les auditeurs.
Non, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai rencontré sur un projet donc, de Laurence Equilbé. Et puis, je me suis dit, ce serait vraiment amusant de le faire venir lui sur... on faisait, à l'époque, on a fait une série de concerts avec Moriarty. On a fait une dizaine de concerts au Trianon à Paris. Et puis, on a un public qui est assez curieux. Et je me suis dit, il nous fallait une première partie, mais on n'avait pas envie d'une première partie pop, je ne sais pas, classique. Enfin, je veux dire, comme on aurait choisi, nous, un groupe de musique pop en première partie. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un solo viens faire un solo de théorbe en première partie de Moriarty. Et c'était extraordinaire, parce que lui, c'était une des premières fois qu'il faisait ça, devant un public qui n'est pas un public de musique classique, justement. Et il y avait une écoute, il y avait une attention, en même temps, il y avait des questionnements, les gens étaient complètement médusés par l'instrument, et puis il s'est permis, au milieu de pièces baroques, d'introduire justement des morceaux, parce qu'il improvise beaucoup, des morceaux comme Enjoy the Silence, parce qu'il savait qu'on le jouait dans le concert derrière, ou quelques références, justement, comme ça, de morceaux pop, et du coup, les gens étaient encore plus attirés, et puis ils s'arrêtaient à un moment, et je disais, mais est-ce que vous savez ce que c'est que cet instrument ? Alors, la plupart des gens ne savaient pas, en fait, parce que c'est pas un instrument qu'on voit tous les jours, et c'est assez extraordinaire.
Votre père est chanteur de folk, il vous a beaucoup fait écouter le répertoire de John Baez ou encore Woody Guthrie. Quelle est la musique baroque ou peut-être classique qu'on écoutait chez vous ? Ou peut-être pas du tout, d'ailleurs, Rosemary Stanley. Est-ce qu'il y a eu une formation à cette écoute-là ?
Pas complètement. Moi, j'ai beaucoup écouté Enfin, ma mère avait des disques de Rameau et de Lully. Donc, un petit peu quand même.
Ah bah oui, quand même.
Les Indes galantes.
Voilà, des choses comme ça. Mais c'était pas ce qu'on écoutait le plus souvent à la maison.
John Baez.
Non, en fait, John Baez, c'est plus tard. Moi, j'ai connu John Baez, Bob Dylan, Woody Guthrie par mon père. C'est lui qui chantait ces chansons-là. Après, j'ai découvert que les originaux, c'était peut-être d'autres gens. Voilà. Enfin.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur.
Extérieur.
On vous retrouve tous dans quelques instants parce que tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Et ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est la comédienne Nada Strancar.
Manu. Nada Strancar, comédienne, metteur en scène aussi, formée par Vitesse, dirigée notamment à plusieurs reprises par Patrice Chéreau, Luc Bondy, Christian Schiaretti. Et c'est dans une mise en scène d'Alain Françon qu'elle interprète en ce moment « Toujours la tempête » de Peter Handke. C'est aux ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon. Et je l'ai rencontrée chez elle à Paris.
Questionnaire théâtre Nada Strancar, Manu Farine.
L'auteur de votre adolescence.
Je crois que c'est Victor Hugo. J'avais l'impression comme ça d'une écriture massive, d'une masse, d'une belle grande masse.
Premier choc au théâtre comme spectatrice.
L'Électre de Vitesse. Ça a été un choc esthétique, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre théâtre qui existait que je ne connaissais pas. Il n'y avait quasiment rien. J'avais été bouleversé par la simplicité, je crois.
Un professeur qui aura été décisif pour vous ?
Antoine Vitesse, bien sûr. J'avais envie d'être actrice, mais pourquoi je voulais être actrice, comment je voulais être actrice, je n'en savais rien en fait. Et donc j'avais été au cours Simon, j'avais préparé le conservatoire, j'ai été boulée là, une première année. C'est-à-dire que je m'ennuyais au conservatoire. Je me suis dit, soit je pars, puis je reprends des études, mais je vais aller voir chez Vitesse. Et là, je dois dire que j'ai eu quand même le choc de ma vie. Enfin, j'ai vu des acteurs en liberté de corps, de voix, de confiance. C'était une classe totalement iconoclaste.
L'auteur que vous avez appris à aimer ou que vous avez fini par aimer?
Claudel. C'est quelqu'un qui me semblait assez rébarbatif. Je comprenais pas bien l'écriture. Et puis, en fait, de l'écouter et de le voir interpréter la mise en scène de Vitesse du Souli de Satin, je veux dire, c'est comme si ça avait été un révélateur. C'est une écriture qui est tellement, là aussi, dense, baroque. J'avais du mal. Et petit à petit, grâce à Antoine Vitesse, j'en ai compris la sensualité déjà. Et puis l'énergie, la consistance, parce que c'est un peu comme Hugo, mais Hugo était plus abordable pour moi.
Le metteur en scène qui vous a mis en danger?
Patrice Chéreau, je pense que c'est lui qui est allé chercher le plus loin des choses, disons, intimes. Alors ça ne se voit pas forcément dans les spectacles. Puis de toute façon, l'intimité d'un acteur sur scène, on est dans le mensonge perpétuel. Donc après tout, le dévoilement n'est pas... Mais c'est Patrice Chéreau, oui.
L'auteur que vous aimez faire découvrir?
Bah écoutez, Ranke, là, pour le moment, c'est une écriture magnifique, un peu circulaire, comme ça, sur la mémoire, les souvenirs. Est-ce que les souvenirs sont nos vrais souvenirs? Est-ce que ce sont des faux souvenirs? Est-ce que c'est des souvenirs qu'on nous a racontés et puis on les a fait nôtres? Enfin, il y a toute une interrogation sur la mémoire, sur le temps, que je trouve extrêmement belle. Pour le moment, c'est mon auteur, pour le moment.
Le rôle qui vous aura le plus appris sur vous?
Tous les rôles m'ont appris sur moi. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, et le théâtre, à force de jouer des monstres, finalement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la vie. Le théâtre m'a donné une force que je n'avais pas. Tous les rôles que j'ai traversés sont des rôles de femmes fortes, même quelquefois monstrueuses. Donc je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie personnelle.
Un rituel avant de monter sur scène?
Ah, ben, il y en a plusieurs. Moi, je suis très rituelique. C'est-à-dire, d'abord, j'arrive très tôt. J'aime bien arriver quand il n'y a personne au théâtre. C'est-à-dire que je me pose devant le décor, dans la salle, toute seule, et je regarde. Après, il y a les bisous à l'entourage. Après, il y a l'italienne. Toujours se refaire le texte. Ensuite, après, il y a le maquillage. Et puis, j'aime bien aller faire un petit tour sur le plateau juste avant l'entrée du public. Je vais poser mon pipi comme les chats.
Nada Strancar, merci.
Vous posez votre pipi comme les chats aussi, Rosemary Stanley, avant un concert, vous allez voir la salle, la scène.
Non,
vous avez des rituels
ou pas?
Ah, c'est vrai, c'est Arthur. Mais oui, c'est un mâle, c'est pour ça.
On n'a pas fait une italienne de l'émission avant de commencer, on aurait dû.
Non, et je n'ai même pas fait le tour du studio, donc
ah oui.
Pas de pipi.
On n'est pas rituelique.
Le rendez-vous.
Je me prénomme vieux français, le timonier de la SAP contemporaine de la grande famille Bologna.
La SAP, c'est la société d'ambiance de personnes élégantes.
Gloire à toi, sapologie. Bénie soit ta science, ô grand maître dans mon univers.
La SAP, faut s'habiller en trois tricologies, en trois couleurs.
L'art de créer la beauté formelle. Le procédé est obtenu par révélation.
Protège-moi de tous ces sapéphobes qui n'aiment pas les sapologues pour que règne ta science des siècles et des siècles. Que la sapologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapologues.
Plateau SAP avec vous, Laurent Lunetta et Ariel Wiesmann, documentariste, scénariste et journaliste. Vous êtes les auteurs de Black Dandy, une beauté politique, un documentaire qui est actuellement diffusé sur Canal+. 52 minutes pour une histoire de l'élégance masculine noire qui va de la réponse stylistique des esclaves aux prescripteurs d'aujourd'hui que sont les musiciens Kanye West ou Pharrell Williams, en passant par les sapeurs congolais qu'on vient juste d'entendre en ouverture du plateau. D'abord un point purement sémantique. Comment définissez-vous le terme de dandisme? Est-ce qu'il a le même sens, surtout selon qu'on se place du côté occidental ou du côté d'une identité noire? Ariel Wiesmann.
Le dandisme, pour moi, bon, il y a 300 000 définitions et elles conviennent à toute personne qui se revendique de ce mouvement de pensée. Mais je dirais que le dandisme est le droit que l'on prend soit de s'inventer soi-même et de donc briser certaines barrières sociales au nom de la beauté ou au nom d'autres choses, au nom d'une personnalité qui peut être farouche, tout simplement de ne pas se tenir à sa place, de vouloir être ailleurs. D'ailleurs, on parlait de Victor Hugo. Victor Hugo a dit « Je suis un homme qui pense à autre chose ». Mais le dandy est quelqu'un qui aspire à autre chose. Et donc, dans le contexte de l'Afrique, eh bien, très clairement, c'est un rapport à une histoire et à une esthétique qui est antique, mais aussi un rapport à des souffrances, à tout un poids historique, à des persécutions, l'esclavage, le post-esclavage, la colonisation, la décolonisation et tout ce qui s'en est suivi. Et donc il y a une transgression par le vêtement d'ordres sociaux qui auraient pu, je dirais, effacer la culpabilité blanche et européenne. Élégamment aussi.
Manu Farine.
Quelle histoire raconterait votre documentaire à tous les deux s'il s'était intéressé aux femmes? Donc, je veux dire, par extension, ça pose évidemment la question du dandisme féminin. Je ne sais pas si ça peut s'intégrer à votre réflexion.
Ben, c'est difficile de parler de genre dans ce cas-là.
Il n'y a pas de femmes hein, dans le
mais,
documentaire.
Oui, il n'y a pas de femmes parce que le dandisme est un concept qui concerne l'homme. Et effectivement, on aurait pu faire une histoire de la femme dans ce domaine-là. Elle est beaucoup plus complexe parce que s'ajoute à ce que l'on pourrait pressentir comme des discriminations raciales, les discriminations sexistes. Et donc, c'est vrai que l'histoire de la femme noire, c'est encore tout un autre chapitre à ouvrir. Et l'histoire des mannequins noirs, l'histoire de l'introduction des filles noires sur les podiums, etc., c'est une toute autre histoire. Elle est complètement différente, qu'on rêverait de faire, évidemment.
Le documentaire se termine sur la jeunesse d'Afrique du Sud, les jeunes dandys des townships, ceux pour qui, dites-vous, Instagram se fait showroom, une génération qui n'a pas connu l'apartheid. Pourquoi fallait-il terminer par eux, Laurent Lunetta?
Déjà, bon, c'était absolument indispensable d'aller en Afrique, sinon ce documentaire n'aurait pas eu de sens. Et terminé par eux, c'était tout simplement, on a rencontré, en faisant ce documentaire, des afro-élégants aux États-Unis, à Londres, et tous avaient pour référence ces gamins d'Afrique du Sud. Tout simplement parce qu'ils avaient déjà été là-bas, il y a 2 ans, dans le festival où nous avons été, le Street Cred Festival, qui regroupe toute cette jeunesse élégante et branchée. Et ils étaient en fascination totale devant ces gamins, tout simplement parce qu'ils créaient des allures incroyables de raffinement et d'inventivité avec rien. En chinant sur les marchés aux puces, en mélangeant, en samplant des vêtements, en mélangeant les motifs et les textures. Et là, on s'est dit, ben, l'endroit où le black dandisme est le plus éclatant, c'est là-bas.
Parce qu'il y a, d'abord, ce sont des quasi-enfants, ce sont des adolescents. Donc, on peut vraiment leur rendre hommage d'avoir un goût aussi sûr et avec une espèce de facilité, de joie de vivre qui est assez extraordinaire, quoi. Parce que on voit que ce qu'ils font demande des efforts et un snobisme et tout un système de la mode extrêmement complexe en Europe, alors qu'eux le font très très simplement. Et ensuite, ils ont une recherche de pureté. À leur âge, sans avoir connu l'apartheid, ils veulent savoir ce qu'il y avait avant l'apartheid. C'est-à-dire qu'ils veulent aller vraiment à la racine de l'élégance de l'homme noir et ils vont chercher par exemple des photos qui sont peut-être les premières photos d'Africains en tenue de tennis blanc, comme ça, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait avant cette espèce de souillure qu'a été l'apartheid dans leur histoire. Donc il y a vraiment un désir de pureté chez eux.
Quels sont les looks qui vous ont le plus surpris ou intrigué? Ralph Wiesmann, Laurent Lunetta.
Il y a une espèce de croisement très étrange entre des looks inspirés presque d'une espèce d'esthétique protestante, très rigoureuse, noire et blanche comme ça, et le hip-hop. Il y a une espèce de télescopage qui est très intéressant, mais il y a aussi les gens de Art Comes First, toute cette élégance qui est nigérienne, ghanéenne, etc., qui est dans l'orbe anglo-saxonne de l'Afrique de l'Ouest, et qui a à la fois l'exigence sartoriale anglaise et puis une folie africaine et une folie dans les couleurs.
Oui, ça me revient, le look le plus étonnant. Malheureusement, il n'est pas dans le film parce qu'on l'a raté, mais quand on était à Harlem pour tourner, j'ai vu dans la rue à un moment donné un jeune homme noir qui était torse nu et qui portait un python autour du cou. C'était un vrai serpent. Il le portait à la fois comme une écharpe et en tenant sa tête dans la main, comme si c'était une canne. Et c'était d'une élégance absolument incroyable.
Est-ce qu'il n'est pas difficile malgré tout de relier tout ça dans une même histoire? Parce que c'est ce qui frappe aussi en regardant ce documentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien des afro-dandies, des rappeurs, des modieux de Brooklyn, les swankers sud-africains, les ghetto gothics new-yorkais, des blogueurs, des étudiants, des sapeurs congolais. Est-ce qu'il faut vraiment les relier par une même histoire de l'élégance et donc par une même dimension politique, puisque c'est bien ça que vous voulez faire dire au documentaire?
Mais moi, j'ai une revendication de non-cohérence, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi tout ferait histoire et on forcerait tout à rentrer avec un chausse-pied dans la même narration, dans le même storytelling. Finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont pratiquement reliées par le fait qu'elle nous est attirée, par notre curiosité. Et d'une certaine manière, c'est après qu'on ait assemblé des éléments épars qu'on commence à voir ce qui est dit dans des choses très très différentes. Donc c'est vrai que les jeunes swankers ou les jeunes isicotan d'Afrique du Sud et la Harlem Renaissance, ça pourrait n'avoir rien à voir. Ben, la vérité, c'est que quand on fait un film, on trouve ce qui unit tout ça. Alors on aurait pu faire un film avec juste l'histoire dans une seule lignée. On n'a pas fait ça.
Voilà.
Il me semble il y a un autre point commun quand même à tous les éléments du film. C'est on a interviewé Monica Miller, qui est une chercheuse américaine, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Slave to Fashion, qui est vraiment, ça raconte l'histoire du black dandisme. Et elle nous explique dans le film que pour elle, l'invention de la pop culture remonte au festival que faisaient les esclaves pour se moquer des maîtres. C'est à ce moment-là que les esclaves s'amusaient à singer les maîtres et faisaient des danses pour les ridiculiser. Et elle dit que c'est la naissance de la pop culture. Or, tout ce qu'on évoque dans le film, jusqu'à Kanye West et Pharrell Williams, ça ne parle que de pop culture, mode et musique.
Au centre du documentaire, exactement, vous avez choisi de vous attarder sur un collectif, c'est Street Etiquette. Qui sont-ils véritablement? À quel moment ils incarnent, en fait?
Street Etiquette, ce sont deux jeunes de Brooklyn, de New York, mais qui viennent vraiment d'un milieu modeste et qui revendiquent l'esthétique du jeune diplômés afro-américains. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître par des vidéos où ils revendiquaient le Black Ivy, c'est-à-dire le Ivy, c'est vraiment le groupe des universités les plus prestigieuses. Et de concert avec des jeunes qui se sentent mal à Harvard, des jeunes afro-américains, parce que on les prend pour l'homme de ménage, ils ont développé un type d'élégance qui est l'élégance un peu provocante d'un jeune black américain diplômé, érudit et en même temps provocateur. Et ça, c'est quelque chose qui a essaimé dans tous les États-Unis.
C'est vrai que c'est... Quand on a découvert le blog Street Etiquette, on a vraiment senti que le black dandisme, c'était une réalité forte. Et c'est en commençant à regarder leur blog, on a trouvé plein de liens et toute une ramification internationale. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'effectivement, c'est deux jeunes du Bronx qui, avec rien, ont commencé à produire un contre-discours sur la mode qui aussi bat en brèche le cliché stigmatisant du jeune homme noir du ghetto avec une capuche, des baskets et des vêtements trop larges.
Un cliché qui est éminemment politique en ce moment, après tout ce qui s'est passé à Ferguson et compagnie et le discours de Salem.
Arthur Bégilet, vous vouliez intervenir?
Moi, c'est l'inverse. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père étaient à Harvard, donc moi, j'essaie de mal m'habiller.
C'est réussi ou pas, d'après vous?
Oui, je crois que je réussis assez. On me donne des habits, ça, voilà.
Manou?
Oui, alors justement, par rapport à ce que vous disiez tous les deux à l'instant, le documentaire s'attarde en creux, hein, effectivement, sur cet uniforme hip-hop, c'est-à-dire le baggy, le sweat à capuche, oui. Et puis un style que, alors vous dites dans le documentaire, qui va devenir rapidement paresseux, puis qui va surtout rendre suspect, stigmatiser la population noire, et au fond, une silhouette d'anti-dandy.
Ouais.
Et vont arriver des gens comme Kanye West ou Pharrell Williams, et de quoi ces silhouettes-là, donc qui sont arrivées il y a quelques années, ça ne fait pas si longtemps, pourraient-elles être aujourd'hui le symptôme? Qu'est-ce qu'elles disent véritablement, ces silhouettes qui sont venues rompre avec ce conformisme-là?
Je crois que c'est une libération. Il a été souligné plusieurs fois à quel point ce look sportswear, entre guillemets, est à la fois le plus stigmatisant et en même temps le plus, sans doute le plus grand marché de la mode de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que vendre des baskets, des jeans, des t-shirts larges, etc., jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on a vendu à autant de monde la même chose. Il faut se rendre compte de ça. Et qui a fabriqué ces choses-là? Des esclaves. Les esclaves du monde asiatique ou d'autres univers. Donc, c'est quand même assez paradoxal que des descendants d'esclaves aient été à la pointe d'une mode qui est fabriquée par des esclaves. Donc, lorsque les hommes d'affaires noirs du hip-hop ont émergé, ces hommes d'affaires que sont Jay-Z, Kanye West, etc., dont on peut penser ce qu'on veut, ça a été aussi comme une libération, parce qu'on les a mis en premier rang des défilés, on les a recherchés parce qu'on s'est dit, finalement, cet immense marché, si on arrive à le mettre un tout petit peu plus haut pour des gens qui ont un petit peu plus d'argent, on va créer un quelque chose d'extraordinaire qui va sauver toutes les marques européennes. Donc c'est la seule raison pour laquelle ils sont là. Donc ils ont fait maintenant, eux, de la mode, leur esclave.
Le documentaire aborde aussi la Harlem Renaissance dans les années 30. Concrètement, en termes de mode, on va dire que c'est là qu'on voit arriver des vêtements très colorés, des vêtements surtaillés, les pantalons mous, surdimensionnés, les vestes sont rallongées. Qu'est-ce que cette extension de la silhouette voulait affirmer, Laurent Lunetta?
Déjà, il y avait une espèce de pied de nez à la misère sociale. C'est-à-dire, en gros, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais m'acheter un costume avec lequel il faut trois fois plus de tissu, avec lequel on pourrait fabriquer trois costumes. Donc, du coup, il y a cette espèce d'affirmation-là. Il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du Zoot Suit, c'était un moment où on pouvait, c'était un moyen d'éviter le service militaire, porter un Zoot Suit. C'est-à-dire que vous étiez vraiment perçu comme un zazou, comme un marginal, comme quelqu'un de déviant. Donc, à un moment donné, c'était aussi un geste politique pour éviter d'être appelé par l'armée de s'habiller comme ça.
Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on a émancipé les esclaves dans le Sud, le racisme ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Par conséquent, on a lynché beaucoup, hein, tout comme après la guerre en Pologne, on a continué à faire des pogroms. Donc on a lynché, et donc ces gens-là sont remontés du Sud à New York, et ils ont trouvé ce quartier Harlem, et là, c'est complètement incroyable, c'est peut-être une des choses les plus uniques en son genre, eh bien ils ont fleuri culturellement, et c'est quand on parle de la naissance de la pop culture américaine, elle est aussi là, elle est aussi avec les Guthrie et ces gens-là, et les gens qui étaient sur les routes, mais elle est aussi là, et c'est elle qui domine aujourd'hui, c'est cette culture, celle de Harlem.
Manu.
Alors comme à tous nos invités, Laurent Lunetta, on vous a demandé de choisir un son, et vous nous avez suggéré celui-ci.
Oui, alors non, j'étais très embêté quand vous m'avez demandé de choisir un son, et en même temps, si on va être très honnête, le premier qui m'est revenu, c'est celui-ci. Et en fait, c'est quand j'étais enfant, j'avais l'habitude d'écouter les matchs de football avec mon grand-père à la radio. Et mon grand-père, qui était italien, écoutait la radio italienne. Et tous les dimanches après-midi, le jingle musical de la RAI, qui annonçait que ça allait être le début de l'émission avec les matchs, c'était cet oiseau, ce cuicui. Et mon grand-père disait « Ah, regarde, tu entends ça, ça, c'est l'oiseau qui vient amener la parole du pays à tous les immigrés. » Et du coup, j'ai repensé à ça. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'étais sans doute content de me rappeler le plaisir partagé avec mon grand-père. Et puis aussi, peut-être parce que ça évoquait une identité rêvée. Et on en a besoin pour se construire.
Deuxième son, alors, celui que vous avez choisi, Ariel Wiesman.
Oh. Ah. aussi agir, les autres.
C'est vrai?
Nous sommes moches.
Parce que toi aussi, t'es une salope.
Parce qu'on est moche.
On aurait voulu le passer en entier. Qu'est-ce qu'on entend, Ariel Wiesman?
On entend les sons d'une radio qui existe toujours, mais d'une façon de faire la radio qui n'existe plus.
C'était le générique
C'était le générique de La Grosse Boule.
Une émission
qui était une émission que je co-animais avec mon camarade Édouard Baird, et dans laquelle je peux me vanter d'avoir eu une liberté qui allait même au-delà de ma possibilité à moi d'être libre, qui m'en suggérait encore une autre, et que je regrette tout simplement. Donc,
on ne peut plus faire de la radio comme ça, vous pensez ?
En tout cas, je n'ai pas vu dans le regard d'un quelconque dirigeant une invitation à cette liberté-là. Donc c'est vrai que quand je parle de liberté, c'est au point que je ne me souviens presque de rien. C'est ça qui est magnifique là-dedans.
C'était très improvisé. Ouais.
Oui, c'était totalement improvisé.
C'est très difficile de parler de sa voix, en fait. Mais
tout simplement, le quotidien sans Radio France, c'est juste une punition.
Merci à nos invités, Rosemary Stanley et Arthur Bégilette. Epitaph paraîtra le 13 avril sous le label Air Rhythmo. Rosemary Stanley, Love, I Obey, apparu sous le label Alpha. Ariel Wiesman et Laurent Lunetta, Black Dandy, est encore disponible sur Canal+, à la demande jusqu'à demain minuit, puis sera rediffusé sur Canal+, vendredi prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
Il menait une existence simple, jusqu'au jour où sa petite amie le quitta pour un autre.
J'ai rencontré quelqu'un.
Ce vieillard ?
Lui, au moins, il a un plan quinquennal.
Son plan, c'est quoi ? On meurt pas ?
Big Daddy.
Demain, une émission Big Daddy, mais pas du tout celui-là, celui de l'écrivaine Chandor Tjavan, qui sera notre invité, avec à ses côtés les journalistes Laure Marchand et Guillaume Perrier. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manfarine, Aïssa Tuendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Thibaut Germez et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h55, vous êtes France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.